Donc, nous sommes le 4 janvier 2018 et je suis avec Hélène Radisson, responsable RH chez Valrhona, que je connais depuis très longtemps et avec qui on collabore en fait professionnellement depuis 10 ans. Et pour marquer ce 10e anniversaire, tu as accepté d'échanger sur le management. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup toutes les deux. Et donc, on peut rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et je propose que tu me dises, pour toi, qu'est-ce qui fait la spécificité du management chez Valrhona?
Alors, ce qui fait la spécificité du management chez Valrhona, c'est plusieurs éléments. C'est d'abord le contexte dans lequel est Valrhona, qui fait que il a fallu qu'on se réinterroge sur le style de management qu'il y avait sur Valrhona et sur la façon dont nos managers accompagnaient les équipes. Donc le contexte, en fait, il prend différentes formes. Le contexte économique fait que effectivement désormais Valrhona, il y a 15 ans, était leader effectivement de fabricants de chocolat et notamment de chocolat de couverture, et est désormais talonné depuis maintenant ces 5 dernières années, on va dire, sur le marché par des gros faiseurs, des concurrents qui font eux aussi des beaux et beaux produits. Donc ça, c'est un contexte déjà économique qui est important à prendre en compte. Il y a aussi un autre contexte économique, c'est que désormais, Valrhona ne raisonne plus uniquement Europe, voire un peu à l'international, mais doit raisonner avec l'ensemble des acteurs qu'il y a dans le monde, puisque maintenant Valrhona réalise plus de 66% de son chiffre d'affaires à l'international. Donc le terrain de jeu de Valrhona a complètement changé. Donc en fait, ça c'est vraiment pour les données, on va dire, un peu plus économiques. Sur les données, on va dire, d'autres contextes, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on a été amené aussi à revisiter notre style de management, parce qu'on se rend compte que intégrer désormais les jeunes générations, et si on veut continuer à être attractif et à attirer les talents de demain, il faut que c'est à Valrhona à s'adapter et non pas à nos jeunes générations à s'adapter à Valrhona.
Moi, j'avais une question là-dessus, plus loin, mais du coup, on peut aller tout de suite dessus. C'est vrai qu'on entend énormément parler de la génération Y, et moi, je voudrais savoir, vous qui recrutez beaucoup de jeunes diplômés, est-ce que vous pensez que c'est des gens qu'il faut manager autrement?
Oui. Alors pour moi, c'est vraiment, quand je dis oui, c'est vraiment un oui franc et massif, et c'est ce que nos managers nous disent. Et ils ont été bousculés justement dans leur style de management, et au début, plutôt assez perturbés et interrogatifs en disant « qu'est-ce qui se passe ? D'habitude, je faisais comme ça, et aujourd'hui, ça ne marche plus ou différemment. » Donc c'était ce type d'interrogation qu'ils ont commencé à nous adresser. Et là, force est de constater que eux le constatent en permanence sur le terrain, peu importe le manager et les métiers dans lesquels ils sont. C'est vrai dans les milieux de production, c'est vrai dans les milieux de la supply chain, c'est vrai dans le milieu de la finance, etc. Puisque chez Valrhona, on a tous les métiers représentés. Et peu importe le métier de ces jeunes collaborateurs quand ils arrivent chez Valrhona, oui, il y a réellement une nécessité de se réinterroger sur, au final, de quoi a besoin ces jeunes générations, de quoi ont-ils besoin, qu'est-ce qui fait sens chez eux. C'est-à-dire que il y a encore 20 ans ou 15 ans, le sens qu'allait chercher un jeune collaborateur chez Valrhona, désormais n'est plus le même. Donc, les managers en face, s'ils continuent à manager avec les mêmes codes, sur les mêmes registres, se retrouvent face à soit des incompréhensions, ou des distorsions dans leur communication, des situations professionnelles qui, quelque part, peuvent être vite un peu à côté ou vite de sens, en fait. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment important. L'autre dimension, c'est ces jeunes générations qui nous ont vraiment poussé à revisiter notre mode de management. Mais aussi, on se rend compte aussi que les collaborateurs actuels, moins jeunes, sont aussi amenés de plus en plus à vivre des choses personnellement, dans leur sphère personnelle et professionnellement, qui sont différentes de ce qu'ils vivaient auparavant. Si je donne quelques exemples, c'est-à-dire que globalement, on a maintenant des collaborateurs qui peuvent avoir des vies personnelles qui ont effectivement bougé, où la sphère familiale a complètement éclaté. On peut avoir aussi des collaborateurs qui rencontrent désormais des problèmes de santé sur lesquels on est obligé là aussi de pouvoir répondre et de pouvoir aménager aussi des choses. Des gens qui arrivent et qui, moi en entretien, me demandent un entretien parce que une maman de 35 ans a des problèmes de garde avec ses enfants. Ça, c'est des problématiques sur lesquelles je travaille, nous travaillons, qui ne m'étaient pas adressées il y a 15 ans ou 20 ans. Auparavant, la sphère professionnelle et la sphère privée étaient plus étanches. Et donc, du coup, ces deux mondes-là, entre guillemets, communiquaient moins entre eux et il y avait moins d'impact. En tous les cas, ils ne nous étaient pas adressés.
Mais est-ce que ça, ce n'est pas le résultat de votre communication sur l'importance du bien-être des gens et ils entendent et
alors,
il y a un conflit là-dessus, ils vous alertent.
Alors, tu as raison, mais d'un autre côté, alors après, je ne sais pas qu'est-ce qui a alimenté d'un côté ou de l'autre, mais notre politique de bien-être, elle est aussi venue et on a souhaité travailler vraiment sur ce champ-là. Il y avait urgence d'ailleurs à travailler sur ce champ-là parce qu'on se rendait compte que de plus en plus, les situations professionnelles de nos collaborateurs et personnels évoluaient. Donc, on était en devoir, dans notre responsabilité d'employeur, d'apporter un niveau de réponse. Je ne dis pas tous les niveaux de réponse parce qu'attention, notre responsabilité, elle est certes engagée, il faut qu'on sache la prendre. Mais à un certain niveau, on n'est pas là pour résoudre la totalité des problématiques que rencontrent nos collaborateurs et pour endosser tout. Il y a d'autres parties prenantes autour de nous et j'en parlerai, et heureusement. Mais en tous les cas, donc oui, tu as raison, c'est aussi parce que nos salariés savent qu'on prend en compte cette dimension de bien-être et qu'il y a cette bienveillance et que du coup, on est à leur écoute et à leur disposition quand ils rencontrent des difficultés. Donc ça amène le fait que la parole s'est plus facilement libérés, et ça les managers le disent aussi, ils sont de plus en plus désormais confrontés à des entretiens où les gens livrent des choses qu'ils ne disaient pas avant, font plus facilement part de leurs ressentis, des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Auparavant, ça ne se disait pas, auparavant on était plus bon et fort et puis on ne disait pas à son manager que ça n'allait pas. Donc il y a le fait qu'ils savent qu'il y a cette attention portée, donc forcément ça favorise la parole. Et d'un autre côté, il y a aussi nous qui avons mis en place ce système-là parce que de toute façon, à un moment, moi en tant qu'RH, je me sentais démunie, c'est-à-dire que face à certaines problématiques, pas compétente, démunie, et en me disant « mais qu'est-ce que je vais faire de ça ?»
Comment c'est la sensation des managers quelquefois et celles qui ne sont pas formées. Souvent, c'est une interrogation qu'ils ont beaucoup. Ils me sollicitent, c'est où est la frontière?
C'est ça, voilà. Tout à fait. Et donc, juste pour compléter, c'est que là, moi, je parle de mon rôle, mais pour revenir au rôle des managers, moi, je crois beaucoup, et dans certaines problématiques, on le vérifie au quotidien, c'est-à-dire qu'il a fallu faire progresser nos managers sur leur mode de management, sur leur style de management. Et nous-mêmes, en tant que RH, nous avons aussi progressé dans nos pratiques et dans la façon, là aussi, d'investiguer les problématiques, de les adresser et de les traiter. Mais heureusement que les deux parties prenantes, et ce n'est pas que ces deux parties prenantes-là, mais admettons manager et RH, ont bougé, qu'on réussit à faire certaines choses. Si les managers avaient bougé et que notre politique RH n'avait pas forcément bougé ou nous, dans notre posture d'RH, nous n'avions pas bougé, ça n'aurait pas marché. Moi, je crois fort à ce couple, en fait, vraiment, parce que moi, je traite des champs d'une problématique purement RH qui peuvent relever soit du cadre légal, soit d'aménagement d'horaire de travail, de choses comme ça. Le manager, sur la même problématique, va intervenir à mes côtés sur d'autres champs. Et c'est parce qu'on fait binôme comme ça qu'on arrive à avoir, je dis bien avec beaucoup d'humilité, un certain niveau de réponse. parce qu'on a des échecs aussi, hein, quand même, il faut aussi se le dire, mais on a aussi des réussites. Mais en tous les cas, dans les réussites que nous avons eues et qu'on partage ensemble avec les managers, quand on fait souvent des retours d'expérience, force est de constater que désormais, les problématiques sont tellement multifactorielles que le manager a sa part de travail, de responsabilité sur certains facteurs et que les RH en ont d'autres. Et que le psychologue du travail en a d'autres. Mmh. Et que l'assistante sociale qui est missionnée aussi en a une autre. Et que notre médecin du travail en a une aussi. Et que nos coordinateurs santé au travail en ont aussi. Donc tu vois, c'est vraiment, et c'est parce que tout ça agit, qu'effectivement on arrive. Et donc là aussi, ce qui est intéressant hein, aussi à voir, c'est ce que nos managers nous disent, c'est qu'ils sont passés par une période où ils se sont sentis déstabilisés parce qu'ils voyaient bien que le niveau de réponse de ce qu'ils envoyaient en tant que manager n'était plus suffisant. Ils ne savaient plus comment répondre, donc d'où l'idée d'adapter et de faire évoluer le style de management. Mais aussi, ils se sont rendus compte que ils sont passés par une période où ils se sont sentis seuls. Comme moi, je te disais tout à l'heure, je me suis sentie seule ou face à certaines problématiques, je sortais d'entretien en disant « Mais qu'est-ce que je vais faire de ça ?» Et nos managers se disaient la même chose. Donc en fait, le fait d'avoir pris le parti de revisiter nos pratiques managériales et de les avoir fait évoluer avec nos managers a permis là aussi de remettre tout le monde dans un bateau commun et de travailler réellement en collectif et de ne pas se sentir seul en responsabilité face à ce qu'on peut porter.
Et pour revenir sur la génération Y, parce que ça, je pense que ça va intéresser beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, vous arrivez à garder, enfin, est-ce que tu es satisfaite de votre capacité à garder les diplômés, enfin, les personnes hautement qualifiées qui sont nées dans les années 80-90 mm-hmm. mm-hmm. Est-ce que tu arrives, par exemple, à comparer avec d'autres entreprises du même secteur ou...
Oui, alors, on a cette satisfaction, effectivement, de pouvoir fidéliser, effectivement, quand même ces jeunes générations. Ce que l'on observe, c'est que réellement, encore une fois pour revenir sur ces jeunes générations, en fait ce qu'on observe, c'est que c'est une relation qui est donnant-donnant. C'est-à-dire qu'ils sont payés pour exécuter un contrat de travail avec des droits et des devoirs, et ils le font très bien. Ils questionnent effectivement le sens de leur poste, la vision qu'a l'entreprise, les valeurs, la culture. Tant que ces valeurs, cette culture et le sens de leur poste a encore suffisamment de contenu, ça fonctionne, la relation fonctionne. Quand effectivement il y a un des facteurs qui commence à se déséquilibrer, souvent le jeune collaborateur commence à lever la tête et là aussi vient me réinterroger en disant ben voilà, j'ai un peu le sentiment désormais soit de plus forcément apprendre, ou j'ai le sentiment aujourd'hui de plus avoir forcément assez de valeur ajoutée, ou de ne plus être suffisamment partie prenante dans la stratégie, c'est-à-dire que j'ai fait mon poste, puisque c'est vrai que dans les jeunes générations, les recrutements qu'on a fait ces 10 dernières années, c'est aussi des recrutements où on est allé acheter de la compétence externe qu'on n'avait pas chez Valrhona. Donc en fait, c'est souvent des jeunes qui ont créé des fonctions qui n'existaient pas auparavant chez Valrhona. Donc en fait, ils ont eu aussi ce loisir de débroussailler la fonction, de l'implémenter, etc. Après, une fois que ça tourne, ils reviennent un peu en disant « c'est bon, maintenant le bébé roule, maintenant, and so what ?»« Ben, and so what ?» Je ne sais pas. Donc là, c'est toute la difficulté aussi, c'est qu'il y a des fois où on arrive effectivement à continuer à transformer la demande et le potentiel de la personne pour continuer à la faire grandir sur le projet de l'entreprise dans d'autres fonctions. Ça arrive. Et il y a des fois où, effectivement, force est de constater, parce qu'on reste quand même une PME, à la taille d'une PME, où il y a des fois où on n'arrive pas forcément à répondre à leurs besoins. Et donc, on a quand même aussi des collaborateurs sur qui on a investi pendant 4-5 ans et qui, par contre, de façon très saine, sans aucune méchanceté ni quoi que ce soit, nous quittent en disant « je vais aller voir ailleurs ». Mais c'est plutôt assez sain. Et alors, phénomène
c'est important
aussi,
le son d'enfant.
Absolument. Et du coup, Donc du coup, ça nous va bien aussi. C'est-à-dire qu'il y a une partie, bien évidemment, on est attaché à les faire grandir et à grandir aussi avec eux et à évoluer. Et puis il y a une partie où quand les collaborateurs nous disent, ben voilà, je vais m'en aller, se dire, ben c'est aussi une opportunité pour nous de réintégrer à nouveau du sang neuf. Donc il faut aussi, tu vois.
Justement, quand vous recrutez, qu'est-ce que tu vas chercher dans un futur manager Valrhona? Qu'est-ce que tu essayes de déceler au recrutement?
Alors, c'est majoritairement du savoir-être. Et en termes de savoir-être, on va chercher réellement une. Déjà, il faut absolument qu'on arrive à toucher, peu importe la façon dont le candidat va l'expliquer, une envie. C'est-à-dire essayer de lui faire, de nous faire dire. Pourquoi aujourd'hui ce poste de manager a du sens pour lui et quel sens ça prend pour lui? Donc souvent, ce qu'il relate, c'est effectivement le fait de développer le capital des hommes et aussi de pouvoir être un petit peu le patron de sa business unit, c'est-à-dire d'avoir quand même suffisamment de cordes à son arc en tant que manager pour avoir suffisamment de leviers pour pouvoir justement exercer pleinement leur rôle de manager. Ça, c'est important. Donc là, moi, souvent dans les entretiens, j'étais en leur disant, donnez-moi des exemples, pourquoi vous me dites ça, où est-ce que vous avez déjà été confronté et invité à vérifier que c'est bien comme ça que vous souhaitez manager. Donc ça, c'est important aussi de lui faire parler aussi des valeurs intrinsèques que ce manager a. Quelles sont les valeurs qui l'animent aussi?
Et comment tu lui fais parler de ça?
Et du coup, je lui fais parler de ça aussi en lui faisant, par exemple, quelqu'un qui me dit « Moi, comme valeur intrinsèque, c'est le respect de l'humain. » Je dis « Waouh, ouais !» Mais encore.
Et après.
Mais après. Ça peut sembler très bateau, donc tu te dis, vous pourriez m'expliquer de façon concrète comment ça se caractérise chez vous. C'est-à-dire, quand notamment cette valeur est bafouée, quand le respect de l'homme n'est pas respecté, qu'est-ce que ça vous fait à vous? Pour essayer de comprendre quels vont être les leviers sur lesquels il va appuyer pour justement être garant du respect de l'humain. Qu'est-ce qui fait que dans ces tripes, c'est-à-dire que là aussi, souvent, ce que j'essaye de faire en entretien, c'est d'essayer de décrocher un peu de l'intellect qui peut se passer dans le niveau d'échange d'entretien qu'on a, et d'essayer de le faire descendre un petit peu plus sur le niveau de ses émotions et sur le niveau de ses tripes. Alors après, c'est pas du tout de la psychothérapie, faut rester vraiment, voilà. Mais j'essaye quand même à un moment dans l'entretien de le faire descendre à ce niveau-là pour voir si réellement ça reste quelque chose qui est modélisé dans sa tête, mais qui résonne pas.
C'est la bonne réponse qu'il a appris parce que Valrhona, il faut leur parler un peu,
ouais.
Faut leur parler un peu valeur, donc
ouais.
Préparer des réponses.
Ça va. Voilà.
J'aime bien
donc
demander,
c'est le danger. Tu as raison.
J'aime bien demander quelles seraient les valeurs de ton entreprise idéale et comment ces valeurs elles s'exprimeraient. Parce que ça permet souvent, je trouve, de déceler le fit en termes de
oui,
culture.
Oui, tout à fait.
Et sur, par exemple, je prends une situation, je dirais, sur telle situation, toi, tu réagis comment? Parce que tu me dis que tu as une valeur respect. Bah là, par exemple, les situations, c'est ni noir ni blanc. J'attends
voilà.
Pas une réponse particulière, mais j'ai envie de voir comment
et situation. Tu as raison, moi, souvent, je les mets à l'aise en leur disant, sentez-vous libre, mais vraiment, répondez-moi avec ce que vous êtes. Voilà, il n'y a pas de question piège, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est la façon dont vous allez me l'exprimer qui va témoigner réellement de la façon dont vous l'intégrez et vous le vivez, en fait. Voilà. Et donc ça, c'est plutôt, on va chercher effectivement donc, leur représentation du management, en quoi l'envie d'être manager les anime. On va chercher aussi beaucoup leur capacité aussi et leur niveau d'empathie. C'est-à-dire que mesurer la capacité qu'ils peuvent avoir à se mettre à la place des collaborateurs qu'ils vont avoir à manager. Et vérifier avec eux s'ils ont cette aptitude-là à réellement à se décaler et à vérifier que ce qu'ils envoient dans le système en tant que manager et que dans leur posture comment va-t-elle être reçue, si c'est par Paul ou si c'est par Jacques ou si c'est par Valérie. Donc à chaque fois leur dire, voilà, mais est-ce que vous avez un style de management, ou si vous aviez à me parler de votre style de management, quel serait-il? Il y en a qu'un, ça marche comment? Et vous avez réussi. Parlez-moi aussi, moi j'en fais aussi beaucoup parler de ben, forcément d'où ils viennent, de quelle culture ils viennent, mais aussi j'avais beaucoup parlé de l'équipe qu'ils ont, des équipes qu'ils ont managées.
Pour s'ils connaissent un peu les gens,
voilà.
C'est capable de parler de,
exactement,
de personnes.
Ouais. Et des fois, la difficulté que je rencontre en entretien, c'est que je peux avoir aussi des candidats qui, par ailleurs, en termes de compétences métiers, sont très solides. Quand je les interroge sur, effectivement, la façon dont ils managent, des fois, on peut avoir aussi, par exemple, des candidats qui viennent de mondes industriels, peut-être différemment normés, type automobile, etc., où il y a des modes de management encore qui sont quand même, on va dire, assez... directif ou pas très participatif, etc. Et donc, en fait, ils me parlent de la façon dont ils managent parce qu'on leur a demandé, bien évidemment, de manager comme ça. Et la question, et c'est un peu, et moi, c'est ma difficulté, c'est de me dire, et souvent, les managers me disent, j'ai managé jusqu'à présent plutôt en mode directif, avec des objectifs, du contrôle, etc. Je me dis, ok, c'est pas notre façon de manager. Pourquoi aujourd'hui rejoindre Valrhona? Pour toutes les bonnes raisons, effectivement, de ce qu'est Valrhona dans son style de management et tel qu'il est connu. Donc, en fait, on sent que le manager a envie désormais d'exprimer son potentiel de manager dans un autre cadre de jeu, avec un autre cadre de référence et d'autres valeurs. Donc, c'est touchant, là aussi, d'entendre cette envie. Là, ma difficulté, c'est de me dire, a-t-il la capacité à se mettre en mouvement sur ce nouveau style de management. Comment va-t-il arriver à quitter son précédent costume et à arriver à trouver les bons codes? D'où forcément ben, le parcours jeune manager qu'on t'a confié, Mara, il y a 10 ans, sur lesquels tous les ans on le revisite avec toi, où on essaye de te donner un maximum de contexte pour que tu puisses suivre aussi les évolutions managériales. Mais qui est un parcours pour nous important parce que du coup, ça permet aussi à ces nouveaux, alors ils s'appellent parcours jeune manager, et souvent il y a eu, et tu as eu, des managers qui avaient de la bouteille en management et que j'ai fait sourire quand je les ai inscrits en parcours jeune manager, où ils me disaient, dis donc Hélène, jeune manager, j'ai 45 ans, ça fait 20 ans que je manage, jeune manager, c'est un peu gonflé. Et je leur disais, pour moi, jeune manager, au début, quand on l'a construit avec Mara, c'était, oui, jeune manager avec peu d'expérience de management. Désormais, jeune manager, pour moi, je pourrais l'entendre, jeune manager chez Valrhona. Donc, bien évidemment, on prend en backup toute l'expérience de management que vous avez, et c'est aussi pour ça qu'on vous a recruté. Mais là, vous allez devoir, quelque part, comprendre quelle est la posture sur laquelle vous allez être attendu. Et en quoi, justement, effectivement, dans tout ce parcours que va vous amener Mara, comment vous allez vous inscrire par rapport à ça? Donc voilà, mais c'est vrai que pour des managers qui n'ont pas forcément managé avec le style de management chez Valrhona, toute la difficulté est d'entendre l'envie qu'ils peuvent avoir, la difficulté de se dire est-ce qu'ils vont avoir cette capacité à le faire, et aussi dans la représentation qu'ils en ont, est-ce que finalement cette nouvelle posture leur ira bien? Parce que ce qu'on a oublié de se dire dès le début, c'est que forcément aussi ce style de management qu'on a mis en place et sur lequel on travaille et qui n'est pas encore loin d'être encore abouti, on a encore plein de progrès encore à faire, c'est aussi dans le but qu'il y ait un plaisir commun à être ensemble. Et que le manager se fasse plaisir à manager, et que les collaborateurs aient plaisir effectivement à être managés de cette façon-là, et à plaisir à venir au travail. Donc cette nouvelle posture de manager, si le manager a connu une posture depuis 20 ans en semi-directif ou directif, demain, en quoi va-t-il trouver du plaisir à toucher cette nouvelle posture en fait? Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'au-delà de dire « Mara a dit que la conduite d'entretien devait se faire comme ça » ou « Mara a expliqué que nanana, etc. » Très bien. Mais demain, quel plaisir ils vont contacter quand ils vont le mettre en œuvre.
Moi, j'essaie jamais d'amener les gens à aller contre nature. J'essaie jamais de leur amener à faire plaisir aux formateurs, à dire, à faire des choses en formation qu'ils ne feront pas après. Et donc, s'ils arrivent à faire des choses en formation, c'est que finalement, ça leur convient.
Oui.
De toute façon, sinon, il y aura un blocage en formation.
Oui.
Et qu'est-ce qui te permet d'affirmer que le management Valrhona, donc un management très participatif, où on considère que les gens sont intelligents et qu'il faut leur donner l'occasion, les outils oui. pour réfléchir, qu'est-ce qui te permet d'affirmer que c'est vraiment le management qui permet de tirer le meilleur des gens?
Ben, tout simplement parce que, comme tu le dis, on part du postulat que tout homme est riche de plein de choses, peu importe sa fonction et son niveau, et que tout homme, est, s'il est mis dans de bonnes conditions, est capable de donner le meilleur de lui-même. Donc si on part de ce postulat, ça veut dire qu'on donne déjà, entre guillemets, un niveau de confiance mutuelle dans la relation qui est vraiment la condition de base pour que ce management se réalise. Donc, à partir de là, le collaborateur sent qu'il y a suffisamment un niveau de confiance et qu'on le reconnaît de fait, sans qu'il ait fait déjà ses preuves, sur le fait qu'on croit en lui, sur le fait que ça va être cet homme-là qui va réaliser ce poste-là et c'est vraiment cette bonne personne qu'on a choisi en fait, et on s'est choisi mutuellement. Donc, il y a déjà ça qu'on envoie dans le système. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est que c'est puissant dans le sens où, en termes de levier de reconnaissance, quand on envoie déjà ce niveau de confiance, globalement, la personne, elle n'a pas envie de trahir ce niveau de confiance. Et ce niveau de reconnaissance dans lequel déjà elle est un bon terreau pour lui permettre d'oser des choses avec un niveau d'autonomie qui lui est donné. Donc là, là où, comme je disais tout à l'heure, notre système est perfectible et où il faut qu'on continue aussi à travailler, c'est qu'il ne faut pas que ça soit confusant. C'est-à-dire qu'on on a parlé ces dernières années, effectivement, de concepts d'entreprise en management d'entreprise libérée et où là, il a fallu, entre guillemets, recadrer un petit peu les choses parce que cette notion d'autonomie, de responsabilité, d'oser, elle peut être confusante pour certains collaborateurs et traduite par « je fais ce que je veux » ou « je fais ce qui me fait plaisir » parce que la notion de plaisir, on la porte aussi chez Valrhona. Donc, à partir du moment où je me fais plaisir, c'est bon. Non, c'est pas ça. C'est « je me fais plaisir dans la limite où ça sert mon poste, ça sert mon équipe, et ça sert mon entreprise et la vision de mon entreprise. » Donc là, déjà, on resserre le cadre. Donc d'où l'idée aussi en management que forcément, et là aussi, c'est un élément qui a fait qu'on était obligé de faire évoluer notre style de management, c'est que nos managers sont des très forts relais de communication. Ils ont désormais à relayer la communication en termes de stratégie et de vision beaucoup plus fortement et au quotidien et au plus près du terrain tous les jours pour essayer de justement traduire cette vision qu'a Valrhona en stratégie claire, en objectif et au quotidien, à la semaine, comment ça se passe en fait. Donc en fait, il a fallu aussi que nos managers grandissent aussi dans la façon, dans leur pédagogie, dans la façon de traduire les messages et de communiquer. Ils ont une responsabilité, moi je trouve, enfin globalement, de toute façon, le métier de manager a vraiment changer de responsabilité, mais je trouve que leur niveau de responsabilité est fort et notamment leur responsabilité en termes de communication est fort en fait. Et donc du coup, ça c'est important parce que le collaborateur, à partir du moment où son manager l'alimente au quotidien de pourquoi il faut appliquer telle procédure, pourquoi aujourd'hui effectivement il y a ce changement de process, pourquoi cette nouvelle règle doit être appliquée, pourquoi, etc. Il faut que le collaborateur entende bien que c'est bon pour lui d'abord et qu'il va devoir s'inscrire lui aussi et se l'approprier en fait. Et donc du coup dans cette notion de les faire travailler dans un niveau d'autonomie avec un cadre donné, qu'ils sachent prendre leurs responsabilités au juste niveau et qu'ils osent effectivement prendre des initiatives toujours dans un cadre donné, on se rend compte que c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que dans ces cas-là, ça les amène à être eux-mêmes acteurs des choses, à ne pas les subir. Et c'est gratifiant pour eux. C'est-à-dire que peu importe leur niveau d'action, quand c'est eux qui l'ont décidé, ils ont défendu leur position, ils ont fédéré l'équipe autour d'eux pour effectivement que l'idée soit adoptée par l'ensemble de l'équipe et que l'idée aboutit, il y a réellement une reconnaissance et une fierté, mais là aussi, et un engagement, non seulement à mettre l'idée en œuvre et à la faire naître jusqu'au bout, mais en plus à l'entretenir, parce qu'après, ça devient leur bébé. Et là, quand on a réussi à faire ça, c'est du bonheur. C'est du bonheur pour eux, c'est aussi du bonheur pour nous, parce qu'en fait, les meilleurs porteurs de messages de cette politique managériale, c'est les collaborateurs et les managers. Donc en fait, les collaborateurs qui ont vécu ça et pour qui ça s'est bien passé pour eux, sont les meilleurs ambassadeurs parce qu'eux-mêmes témoignent de cette expérience-là auprès des collaborateurs qui n'ont pas encore aujourd'hui osé prendre une initiative, oser dire certaines choses, qui en termes d'autonomie ont besoin d'avoir un cadre encore très clair et ne s'autorisent pas effectivement à fonctionner sur un niveau d'autonomie encore suffisant. Donc ça peut aussi aider les autres à y aller. Donc ça peut aussi faire phénomène de boule de neige. Ça peut aussi, tout à fait, on a encore bien évidemment hein, des collaborateurs qui aujourd'hui nous disent « Moi, ce concept d'autonomie, d'oser et de responsabilité, moi, je n'adhère pas. Moi, j'ai besoin d'un chef qui me dit ce que j'ai à faire tous les jours, toutes les semaines. J'ai besoin d'un chef qui me dit c'est conforme, c'est pas conforme. J'ai besoin d'un chef qui contrôle ce que j'ai à faire. J'ai toujours été managée de cette façon-là et qui n'envisage pas, ou qui n'ont pas peut-être à ce jour, soit envie, soit compris, encore une fois, quel intérêt il y aurait pour eux. Et ça, là aussi, ça ne se décrète pas.
Est-ce que tu vises le 100%?
Non. Ça serait utopique.
Ce serait complètement utopique. Et puis, de toute façon,
donc, c'était pas mais là qu'il faut forcément et puis, sur les 5% qu'il faut mettre l'énergie. De toute
non
de
plus. Façon, à partir du moment où ils ne rament pas contre-courant et qu'ils ne sont pas irrespectueux du cadre et qu'ils délivrent ce pour quoi ils sont payés, tout va très bien. Pas de raison. Et puis, je trouve que qui on est, aujourd'hui, forcément, on est convaincu que pour nous, c'est là où, avec ce style de management, on va chercher la meilleure performance de nos hommes et de nos femmes de l'entreprise. Mais qui on est pour décréter et aller dire à la personne, je te demande de... Mais on n'est rien. Il y a aussi un niveau de liberté qu'on doit laisser à la personne elle-même, telle qu'elle est. Et encore une fois, à partir du moment où elle fait son job, très bien, faut quand même pas oublier la relation contractuelle qu'on a sur un contrat de travail. Enfin, c'est quand même la base du deal. Le contrat est respecté, ok, très bien. Donc non, c'est pas...
Sur le parcours jeune manager, avec 10 ans de recul, qu'est-ce que tu peux dire de la progression et des carrières des personnes qui sont passées par ce cursus?
Moi, je trouve que ça, c'est d'abord une base solide pour qu'ils continuent justement à investiguer qui ils sont en tant que manager. Et il faut absolument qu'ils puissent acquérir ces bases-là pour ensuite continuer à grandir et aller continuer ensuite à se frotter par exemple, à des programmes de formation sur l'intelligence émotionnelle, sur tu vois, des choses comme ça. Donc ça, c'est important parce qu'après 10 ans, on se rend compte que tous ces managers qui sont passés par ce parcours jeune manager, ils ont un langage commun, ils ont une culture commune. Et ça, c'est très important parce que je parlais tout à l'heure de la solitude du manager. Là, ils ne sont pas seuls. Non seulement ils sont accompagnés pendant leur parcours, en plus, il y a l'effet promo entre eux. Et puis, il y a aussi entre eux, « Ah, mais toi aussi, l'année dernière, tu as fait le parcours du jeune manager. Ah, mais moi, je l'ai fait il y a 5 ans. Ah bon, toi aussi, tu l'avais fait ? Ah bah oui, et patati et patata. » Donc, en fait, ça leur donne un langage commun. Et ça leur montre là aussi qu'il y a une communauté quelque part et que quelque part, on a le souhait de les fédérer sur un socle commun. Et donc ça peut aussi, je pense, les rassurer sur le fait qu'on les reconnaît dans cette communauté de managers, on prend soin d'eux. On les reconnaît comme étant vraiment une strate de l'entreprise très, très importante, que ce parcours, il est fait pour eux, et qu'ensuite, à leur demande, selon leur progression, selon leur maturité managériale, selon ce qu'ils vont rencontrer, ils vont effectivement suivre des programmes de formation, comme je disais, sur l'intelligence émotionnelle, sur les risques psychosociaux, sur spécifiquement, moi je sais pas, développer son leadership, sur, tu vois, voilà, sur développer son management en transversal, par exemple, tu vois, voilà, des choses comme ça. Mais on peut développer les programmes suivants parce qu'on a mis cette base-là, en fait, au départ.
De toute façon, les entreprises les plus performantes développent le management en continu. C'est un message oui. que j'ai un peu mal à faire passer. C'est pas, tu lui payes ses 5 jours de formation et après, t'es tranquille pendant 20 ans.
Non.
C'est un travail continu.
Ouais.
Et justement, et c'était la dernière question que je voulais te poser. Donc, Valrhona est très reconnue comme étant un endroit où les gens aiment travailler. Vous avez remporté voilà, Best Places to Work. Et puis, est reconnue pour la qualité de son management. Quels seraient les conseils que tu donnerais à des entreprises qui ont envie de faire de leur entreprise un lieu où c'est plus agréable de travailler et qui ont envie d'avoir, de développer certaines des qualités valronesques chez leur manager?
Oui, parce que notre modèle, il ne vaut que parce que c'est notre entreprise et que c'est Valrhona. Moi, je dirais simplement que ces personnes-là s'interrogent déjà sur s'ils ont envie effectivement de développer un style de management qui leur est propre et plutôt tourné sur de la bienveillance, de la confiance, de l'autonomie, etc. C'est surtout pour quelle finalité veulent-ils le faire. Voilà. Ça, je trouve que c'est vraiment important. Peu importe la finalité qu'ils vont poursuivre, il ne faut pas qu'ils se la racontent et il faut qu'ils soient tous alignés sur là où les finalités. Moins elles sont nombreuses, à mon avis, mieux c'est, plus c'est facile, mais ça c'est qu'un jugement personnel. Ne pas non plus viser 36 finalités, parce qu'à la limite, après ça sert à tout, mais finalement ça sert à rien. Peut-être viser une ou deux finalités qui réellement correspondent encore une fois à où est-ce qu'ils en sont dans cette entreprise, d'où ils viennent, et qu'est-ce qu'ils veulent devenir, et pourquoi désormais ils aimeraient développer ce style de management pour atteindre quoi? Pour quelle finalité?
Et donc des finalités qui fassent vraiment vibrer les dirigeants. Parce que oui, si les dirigeants ne le portent pas, il ne se passerait rien.
Exactement, voilà. Et qu'ils les gardent bien au chaud, ces finalités, parce qu'en période un peu de doute, parce qu'on en traverse, on traverse encore et on en a traversé, et ben du coup, ça leur permettra de se réassurer et de se réinterroger année après année, de se dire au final, est-ce qu'on est toujours bien orienté et est-ce qu'on est toujours bien aligné sur ces finalités-là? Ces finalités, elles peuvent certainement évoluer, surtout dans un contexte d'entreprise qui peut évoluer très rapidement. Mais peu importe qu'ils se réinterrogent et que soit qu'ils se réancrent en période de doute sur les finalités qu'ils avaient choisies ensemble, ça peut leur permettre de se réaligner, de continuer à se dire « Ok, c'est compliqué en ce moment, mais on continue parce qu'on y croit encore et parce que ces finalités ont encore du sens pour nous tous. » Ou alors, nos finalités, finalement, sont plus complètement celles-ci. Et on se le dit en bonne intelligence et on les revisite, ces finalités. Mais c'est important, plutôt que de se dire, on va développer, bah ouais, on intègre dans les 3 années à venir 30 nouveaux jeunes. Donc, ouais, c'est évident, il faut développer, il faut adopter notre style de management. Le faire pour le faire.
C'est un début. Si je pense à certaines entreprises, ce serait déjà bien d'accepter ça. Mais oui, bien
sûr. Mais après, le problème, c'est que ce n'est pas fini. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils mesurent aussi les conséquences. C'est-à-dire qu'ils vont faire évoluer leur style de management pour intégrer ces 30 nouveaux jeunes, effectivement, jeunes collaborateurs. Mais il faut bien qu'ils comprennent que s'ils y vont, ils s'y mettent le doigt dedans, ils s'exposent à plein de choses. Donc, ont-ils envie de ça? Ont-ils envie que leur manager soit chahuté par ses collaborateurs?
Moi, je connais plein d'entreprises où clairement la préférence, c'est que les jeunes s'adaptent. C'est que les jeunes s'adaptent. Mais ils y passent beaucoup d'énergie.
Oui. Oui, parce que là, moi, l'image que j'ai, c'est de faire rentrer un rond dans un carré. Tu vois, c'est... Et alors, il y a quand même... Et d'ailleurs, ils sont plutôt bons, ces jeunes. Moi, je suis bluffée de jeunes que je suis en période d'intégration, une fois qu'on les a recrutés en période d'essai. Quand je les rencontre en milieu de période d'essai, en fin de période d'essai, par exemple au bout de 3 mois, il y a des fois, j'ai des jeunes, quand je les vois au bout de 3 mois, j'ai l'impression que ça fait trois ans qu'ils sont là, quoi. J'exagère un peu, mais ils ont une capacité d'adaptation qui est quand même assez impressionnante, mine de rien. Donc, quand on dit que l'entreprise doit s'adapter à ces jeunes, oui, prioritairement oui. Mais ce serait, je pense, pas juste de ne pas reconnaître que ces jeunes ont aussi, mine de rien, une super capacité d'adaptation à l'entreprise quand même. Moi, je suis quand même assez bluffée. Donc, oui, ils s'adaptent jusqu'à une certaine mesure, tant que ça fait sens pour eux, encore une fois, et tant que, voilà, et tant que ça correspond à leurs valeurs. Ils s'adaptent, ils savent le faire, il n'y a pas de souci.
Merci.
Ben, merci à toi.